Voilà, chers amis, notre jour, c'est dimanche. Lundi, je vous ai parlé de l'accomplissement du royaume de Jésus à Jérusalem. Je vous en ai parlé un petit peu. J'ai pris des prophéties du livre d'Ésaïe et une de Ézéchiel. Et dimanche, j'avais parlé des promesses faites à Abraham. On pourrait s'étaler beaucoup plus sur la royauté de Jésus à Jérusalem. Il y a simplement deux choses qu'il faut savoir, c'est que 85% au moins de la chrétienté ne croit pas qu'il y aura un règne de Jésus, de Christ à Jérusalem, concret pendant 1000 ans. Et ces églises-là, il y en a même des baptistes, des évangéliques, il y en a les églises protestantes en général, les églises catholiques et orthodoxes, pense que quand Jésus revient, c'est pour le jugement final. Donc il n'y a pas un temps de règne du Christ Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Pour une minorité de chrétiens évangéliques, il y a un règne. Et il y a un accomplissement de prophéties propres à Israël, avec la présence de David. Et donc... Cela, ça mérite un approfondissement que je ne ferai pas, parce que ça risque de fatiguer certains auditeurs qui ne trouveront pas un intérêt pour leur vie personnelle. Mais cela peut faire l'objet d'un approfondissement par un livre que je peux vous conseiller, ou par une retraite un jour, un temps d'échange qu'on aurait ensemble. Donc moi aujourd'hui, j'ai surtout veillé à faire brûler le cœur, l'âme et la pensée de chacun de nous avec des questions et des citations bibliques. Donc si nous allons dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, Deutéronome chapitre 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les inculqueras à tes enfants. Voilà. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Donc, clairement, Dieu demande une attitude d'affection, d'adhésion complète envers sa personne. Quand Jésus est ressuscité, il a dit la même chose quasiment, puisqu'il a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Ce n'est pas pour qu'on le mette au frigo ou qu'on soit comme des blocs de glace. Donc il y a absolument une nécessité dans le plan de Dieu qu'un vrai enfant de Dieu, un appel, une volonté divine, à ce qu'il soit en communion profonde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, suite aux enseignements donnés sur la résurrection, sur les prophéties de la promesse faite à Abraham, je pense qu'il est important que notre cœur brûle, notre pensée, notre âme, pour Jésus et pour notre Père des cieux. Alors voilà des questions que j'adresse. Il y a des citations, bien sûr. Il sera peut-être difficile pour vous de suivre et de noter, mais vous pourriez le faire. Les questions sont assez courtes. Si vous avez un cahier, des feuilles, un bic, et ça demande quand même du travail, mais vous pourriez les retrouver après sur le site, si vous n'avez pas pu suivre. La première question, c'est « Avez-vous été choisi par Jésus ?» C'est quelque chose de profond. C'est quelque chose de profond. Vous savez, dans la relation humaine, dans le couple, on a toujours besoin de savoir si l'autre nous a choisi. Il a fait il a pris une décision préférentielle. Pour un enfant dans une famille, il a besoin de savoir si on l'a choisi, si on l'a aimé pour lui-même. C'est fondamental dans la constitution de la personnalité pour son évolution. Alors, pour nous, enfants de Dieu, il est essentiel d'avoir cette perception si on a été choisi ou pas. Si on est chrétien et qu'on n'a pas le sentiment d'avoir été choisi, Il faut vraiment s'adresser au pasteur ou à des chrétiens déjà âgés dans la foi, expérimentés dans la parole, et il faut approfondir ce problème. Il ne faut pas en rester là. C'est qu'il y a un handicap moral et spirituel dans le cœur du chrétien et de la chrétienne. Donc, avez-vous été choisi par Jésus? C'est la première question. Je prendrai donc quelques passages, Romains 8, versets 29 à 30. Alors, Romains 8, versets 29 à 30, « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils Jésus, afin que son fils Jésus fût le premier-né entre plusieurs frères, donc celui qui a le droit d'aînesse, qui conduit les autres frères et sœurs. » Donc, connus d'avance, prédestinés à être semblables à Jésus. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, c'est-à-dire pardonnés des péchés et déclarés justes, non coupables. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et vous voyez ici qu'il y a quand même quelque chose de fondamental. C'est le sentiment d'avoir été choisi. Et que personne ne peut contredire cet appel. Donc, ça, c'est constitutif de l'expérience de vie chrétienne. Regardons les versets 37 à 39, toujours dans le même chapitre 8. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, celui qui nous a aimés, il y a quelque chose, il y a une force en nous, il y a un sentiment de ne pas être le perdant. On est aimé par Dieu et par son fils Jésus. Et donc, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, une assurance d'être unis à Dieu parce qu'il nous a choisis. C'est donc pas une union sentimentale que j'aurais choisie, c'est d'abord une union venue d'en haut, du ciel, à mon égard. C'est un approfondissement nécessaire, frères et sœurs, qu'il faut avoir. Pourquoi? Parce que le Jésus ressuscité, celui dont nous avons parlé plusieurs fois, puisque c'était Pâques il n'y a pas longtemps, nous a donné l'assurance que ni la mort, ni la vie ne nous séparerait de lui. Vous l'avez vu dans le verset 38. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, donc des anges révoltés contre Dieu, des démons, ne peuvent nous séparer. Il n'y a pas de puissance qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est l'intime conviction d'être un enfant pour Dieu, pour Jésus-Christ, un frère pour Jésus-Christ. Et je prendrai d'autres textes, évidemment. Jean chapitre 15, verset 16. C'est toujours en relation avec la résurrection, avec Pâques, évidemment. Jean 15, verset 16 et verset 19. Je pense que la résurrection... Le sacrifice de Jésus et la résurrection sont fondamentaux dans notre vie. Et fondamentaux. Et on ne peut pas partir d'un autre point. C'est le point de départ de notre vie. Parce que le Christ ressuscité est vivant. Quand il y a un an et demi, j'avais très mal à l'épaule, je ne pouvais plus dormir. Mon épaule droite, ligament déchiré, troué. Et le médecin... Roumain me dit, en me regardant, il n'était pas sûr de m'opérer, il faudrait attendre la résurrection. Ben, je dis, j'attendrai le ressuscité. Il est vivant. J'attendrai le ressuscité pour mon épaule. Pas seulement la résurrection, parce que dans son esprit à lui, c'était plus tard. Mais la résurrection de Christ est dans ma vie. Jésus est ressuscité. Il est dans ma vie. Donc, la résurrection, la puissance de la résurrection est en moi. Donc, je me suis attendu au ressuscité. Et évidemment, mon bras droit va très bien, sans opération. Jean 15, verset 16. Et spirituellement, c'est la même chose. Nous avons des états d'âme, des états intérieurs qui peuvent être guéris et traversés par le ressuscité puissamment. Et nous sommes vainqueurs. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Nous rejoignons ce que nous avons lu dans Romains 8. Mais donc, Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi, c'est-à-dire mis debout devant Dieu, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. » Donc, nous avons réellement été l'objet d'un choix. Il ne faut pas s'enorgueillir, bien sûr. C'est un privilège, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous coûter beaucoup d'efforts, beaucoup de décisions, beaucoup de renoncements, et même de grandes épreuves. Au verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Donc, automatiquement, qu'il y a une élection, un choix de Jésus-Christ sur une personne, il y a une contre-réaction, il y a une opposition spirituelle qui va se manifester par des gens même qui ne savent pas pourquoi, mais ils vont s'opposer. Et ce qui est extrêmement important, c'est « je vous ai choisi du milieu du monde ». Alors, 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Première à Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Alors, prenons ce verset-là pour chacun de nous. Parce qu'on pense toujours que Jésus est venu pour les pécheurs. Oui, ça c'est sûr. Mais, et moi, j'étais en réunion en France, il y a peut-être 10 ans, chez un ami, il y avait plusieurs personnes, et il y avait de nouvelles personnes, et une personne, quand je lisais ce texte, disait « oui, oui, c'est vrai qu'on est tous pécheurs ». Mais je connaissais la vie de cet homme, qui était extrêmement dissipé, et sa mauvaise vie. Et c'était facile pour lui de dire « nous sommes pécheurs » puisque il est né dans nos régions, en Ardennes, etc. Il a entendu ça tout près de M. le curé, dans le catéchisme. Il le répète. Donc, si on est naïf, on pourrait dire « mais il est chrétien ». C'est à tort. On ne peut pas être naïf. Et je lui ai dit « est coupable » en le regardant. « Pécheur est coupable ». Il s'est tu, il n'a plus rien dit de la réunion. Et effectivement, il est resté un grand pécheur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas reconnu sa culpabilité. Le pécheur que nous sommes, et le péché que nous avons reçu d'Adam et Ève, oui, bien sûr, ça, c'est facile à confesser. Mais que je porte la responsabilité d'aimer ce péché, je porte la responsabilité de le pratiquer devant Dieu, et que je demande pardon à Dieu, ça, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai dit à cet homme, est coupable. Alors, sachons bien que dans Romains 8, 1, il est dit ceci, que celui qui croit en Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation, point de culpabilité en lui. Donc, c'est clair, il est pardonné, et la culpabilité n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'il a réellement accepté la mort de Jésus sur la croix pour lui. Il sait que Jésus a été puni à cause de lui, qu'il est mort pour lui. Le plus important pour nous, quand on sait qu'on a été choisi par Jésus, c'est de reconnaître et de lui dire merci, de reconnaître qu'il est mort sur la croix pour moi. Et il a souffert. Et il était sans péché. Donc, quand je pose la question, avez-vous été choisi par Jésus? Sachez bien que c'est une question lourde, lourde, grave, qu'il faut bien peser. Donc, je viens d'expliquer cette première question. Elle est le point de départ de tout pour être chrétien. Alors, la deuxième question que j'ai à vous confier, c'est avez-vous été donné par Dieu le Père à Jésus? Ça peut paraître drôle, cette question, mais on va essayer de réfléchir. Jean chapitre 17, verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, ici, nous voyons que un certain nombre de disciples, hommes et femmes, ont été donnés par Dieu le Père à Jésus. Et Jésus le dit bien, leur dit qu'il y a un passage de copropriété, d'indivision entre Dieu et son Fils. Et ils sont propriétaires tous les deux du chrétien. Il y a une indivision éternelle. Ils sont propriétaires tous les deux. Et si vous regardez bien, au verset 7, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont connu. Le mot en grec et dans l'évangile de Jean, c'est comme l'homme et la femme qui vivent ensemble, intimement. Donc, ils se connaissent bien. Ils ont tout partagé. Donc, ils ont connu. Ils ont fait l'expérience avec moi, Jésus, pendant 3 ans, et aussi après la résurrection, évidemment, dans le Saint-Esprit. Que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Donc, eux, viennent, c'est un cadeau de Dieu, à Jésus. Et donc, si Dieu, qui est le maître du ciel et de la terre, et le maître de nos vies, il nous donne à Jésus, c'est Jésus le maître de nos vies, c'est Jésus le maître de nos pensées, de nos affections, de notre cœur, de nos forces, de notre santé. Il faut bien comprendre cela, c'est que la deuxième question que j'ai posée est pleine d'importance. Avez-vous été donné par le Père à Jésus? Il faut avoir ce sentiment, cette identité. Parce qu'il y a plein d'hommes sur la terre qui croient en Dieu. Il y a plein d'hommes qui croient que Dieu les a créés. Oui, ils sont croyants. Mais ont-ils été donnés à Jésus? Les amis, vous voyez bien la différence? Alors, au verset 11, dans le chapitre 17, verset 11, je lis le verset, chapitre 17, verset 11 de Jean. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, de nouveau, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu. Donc, quand Jésus est devenu le maître de la vie de quelqu'un, il le garde. Et comme il est Dieu, il sait garder une brebis. Comme il est Dieu, il sait garder un enfant. Il le garde. Cette idée que Jésus nous garde et qu'il est notre maître et que nous sommes sa propriété, dans son amour évidemment, c'est quelque chose de rassurant. Nous ne pouvons pas appartenir à Satan. Il n'y a pas de chrétien possédé qui appartienne à Satan. Et nous sommes à Jésus, nous sommes au Seigneur à part entière. Et il faut pouvoir lui dire dans la prière, il faut pouvoir lui dire, C'est formidable. Je vois, j'ai des coups de téléphone, j'ai des relations avec des personnes un peu partout, mais ce qu'il y a, je vois tellement de gens troublés qui ne sont pas sûrs, qui ont des craintes, qui dorment mal, etc. Pourquoi? Parce que les bases de la connaissance de leur salut, ils ne l'ont pas. Les bases, ces bases-là que je repose sur ces deux questions-là. Il faut recommencer la leçon à zéro, parfois. Quand on a raté une année à l'école, parfois, on l'a recommencé dans le temps. Maintenant, on laisse passer. Mais avec Jésus-Christ, on recommence nos leçons tous les jours. Première question, avez-vous été choisi par Jésus? Deuxième question, avez-vous été donné par le Père à Jésus? D'une très, très grande importance pour que nous ayons réellement connaissance de qui est Dieu, de qui est Jésus, de qui nous sommes pour eux. La troisième question, c'est avez-vous aimé Jésus? C'est-à-dire que on peut croire en Jésus, on peut reconnaître qu'on est pécheur, on peut avoir des craintes d'aller en enfer, on peut avoir une espèce de sécurité en croyant, et puis il y a d'autres croyants, d'autres chrétiens qui sont gentils, qui sont bons, etc. Alors, je crois en Jésus. Mais la troisième question, c'est pas ça que j'ai posé. Avez-vous aimé Jésus? Alors, prenons des textes. Jean 16, verset 27. Jean 16, verset 27. Le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé. Il est clair que Jésus dit ici, il reconnaît que les disciples qui sont là autour de lui l'ont aimé. Est-ce que quand je me présenterai devant le Seigneur, quand il viendra, il pourra dire ça de moi à son Père déçu? J'ai cru, hein? Oui, j'ai cru, j'ai toujours cru. Il y a combien de gens qui me disent ça? Ah, j'ai toujours cru. Les amis, c'est pas ça hein, que Dieu veut. Des choses pareilles, c'est on passe à côté. On passe à côté de la vérité, pour nous. C'est quand on aime Jésus qu'on est dans la vérité. C'est quand on aime Jésus qu'on respecte le Père. Jean, dans sa première épître, le dit, celui qui a le Fils a le Père. En dehors de ça, nous sommes des antéchrists. Alors, c'est fondamental. L'amour de Jésus, avez-vous aimé Jésus? Et quand je dis aimer, il y a quelque chose à un moment donné qui a été tellement fort qu'on ne peut plus le balayer, le mettre de côté. Il reste, même s'il s'atténue à certains moments, puis qu'il remonte, etc. Mais ça, c'est à Dieu de remettre du bois sur le feu pour qu'il rebrûle. L'œuvre du Saint-Esprit aussi. Mais si réellement il y a eu un moment réellement d'amour et de consécration personnelle et volontaire à Jésus, c'est sûr, c'est phénoménal. C'est cela que Dieu attendait. Chapitre 21, verset 15. Vous pensez bien que quand je prépare les choses comme ça, et que je sais que trois de mes enfants ont cru, deux au moins ont cru et ont été baptisés, ces questions-là, si je leur repose, ça serait très embêtant. Mais pour beaucoup de chrétiens dans les églises, c'est aussi la même chose. Ça serait très embêtant. Mais je pense qu'il est bon de se poser ces questions-là, parce qu'il faut y avoir répondu avant que Jésus soit là. 21.15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ?» Tous les disciples aimaient Jésus. Mais cette fois-ci, le champion de la trahison, ça a quand même été Pierre. Et alors, Jésus voudrait bien que ça cesse, que ça ne se répète pas. Il aime vraiment Pierre, et il sait que Pierre l'a aimé. Il voudrait bien que ce problème-là ne recommence pas. Comment peut-il lui donner une mission si cela recommence? Vous voyez les dégâts pour les autres, mais aussi pour Pierre. Et l'offense faite à Dieu le Père. Alors, Jésus insiste, Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aimes même ceci? Donc, il y a clairement pour nous, chacun de nous, une question. Je ne regarderai pas mon frère, ma sœur, mon père ou mon pasteur ou telle sœur de l'Église pour savoir si j'aime Jésus. Je dois en être convaincu moi-même et je dois y mettre le paquet. Et il n'est pas question de savoir si je mets plus le paquet que Hortense ou Jules dans l'Église. Et pour Jules et pour Hortense, c'est la même chose. Il n'est pas question de savoir si c'est Christiane ou Annie qui a mis plus. On n'est pas en train de savoir ce que les autres ont donné à Dieu, à Jésus. On se donne à Jésus, inconditionnellement et sans comparaison et sans regard sur les autres. C'est l'élan d'amour complet. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est comme un enfant s'est aimé. C'est un amour pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu, chapitre 4, les Béatitudes. Prenons maintenant la première épître de Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, première épître de Pierre, chapitre 3, versets 14 à 15. Pardon. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Souffrir pour la justice, c'est-à-dire souffrir pour la sainteté. C'est la sainteté de Jésus. Dans ma vie. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Donc, il y a toujours, dans celui qui s'est donné entièrement, il a toujours la capacité de se donner, de dire directement à l'autre, même s'il est hostile, il est de donner, exposer son amour pour Jésus. J'ai dû le faire ces temps-ci pour plusieurs personnes et je voyais bien que les personnes faisaient très attention. Mais ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour qu'eux aussi le fassent. Que cet immense amour qui est né un jour dans mon âme, dans mon cœur pour Jésus, s'installe aussi en eux. Il faut le désirer. Et quand on le désire vraiment, qu'on le demande, un jour Dieu le Père le donne, l'installe en nous. Donc, avez-vous aimé Jésus? La quatrième question, avez-vous l'assurance que Jésus, qui est devenu votre ami, sait qu'il est convaincu que vous l'aimez? Vous savez, quand entre deux amis, oh, j'aime tellement cet ami-là et tout ça, mais ça me réjouit quand l'autre ami le sait et en est convaincu. Qu'il en est convaincu. Il a complètement conscience de l'amitié et de l'amour que j'ai pour lui. Regardez Jonathan et David. Et cette amitié était profonde entre David et Jonathan. Regardez l'attachement que l'apôtre Jean avait pour Jésus, et Marie de Magdala, et d'autres. Donc, Jésus savait l'attachement que Jean avait. Jésus savait l'attachement que Marie de Magdala avait pour lui. Et donc, Jésus doit savoir. Il doit savoir. Et c'est normal, puisque c'est l'être divin par excellence qui nous aime, et qui est mort sur la croix pour moi. Il doit savoir, il doit être certain que je l'ai aimé et que je l'aime. Il doit être pleinement convaincu. C'est normal qu'il pose trois fois la question dans Jean, chapitre 21, à Pierre. Pourquoi? Parce que c'est la joie de Christ d'être aimé. C'est la joie de Christ d'être aimé. Est-ce que vous vous rendez compte de la nature de Jésus? C'est la joie du Père des cieux d'être aimé. Et l'apôtre Pierre dit qu'à ce moment-là, quand nous avons la conviction d'aimer Jésus et que Jésus a la conviction que nous l'aimons vraiment, que les, ça c'est l'Église finalement, que les anges désirent plonger leur regard en nous pour contempler cette œuvre merveilleuse de l'amour. Et retournons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Et vous allez voir que c'est quand même le désir fondamental de Jésus qui nous aime. À la fin du chapitre 17 de Jean, Père, je veux, verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. C'est où je suis ? Je suis, c'est le nom de Dieu. C'est l'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je veux qu'il soit là au milieu, dans la Trinité. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau et de plus grand entre le Père, le Fils et l'Esprit que l'amour entre eux ? C'est pour ça que je vous posais la question. Avez-vous l'assurance que Jésus est vraiment, pleinement convaincu que tout est transparent dans votre vie, que vous l'avez aimé, que vous l'aimez? Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et l'Esprit Saint le désirent. Ils le désirent, cet amour pur et vrai de notre part. Alors, vous me direz, c'est pas facile. En un sens, c'est jamais facile et c'est quasiment impossible par nous-mêmes. Mais si nous nous abandonnons à l'œuvre de l'Esprit Saint, il est clair que Dieu est merveilleux et il fait en nous la même chose que ce qui est entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que, si vous lisez Jean chapitre 17, il est très important de peser les mots qui ont été donnés. Verset 25, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » L'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc finalement, c'est une vitrine complètement propre. Je vois souvent mon épouse nettoyer les vitres, parce qu'elle aime bien que ça soit impeccable pour voir dehors, que ça soit net. Mais je pense que s'il y en a un qui désire que ça soit net et propre, transparent, c'est bien Dieu. Un amour net et transparent. Et merveilleux. Et c'est pour ça que vous avez les images dans l'Apocalypse, et même dans Exode, d'un trône de cristal. Tout est merveilleux et pur. Parce que c'est l'image de la perfection de l'amour. Alors, je répète cette question, 4. Avez-vous l'assurance que Jésus, qui est devenu votre ami, sait, est pleinement convaincu que vous l'aimez? C'est essentiel. C'est essentiel. Comment un couple qui est heureux, malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir, peut avancer? Comment il peut être heureux? C'est quand chacun sait que l'autre l'aime vraiment. C'est sans retour. Et en Christ, c'est la même chose. C'est sans retour. Avez-vous, question 5, avez-vous l'expérience que Jésus vous conduit là où vous ne voulez pas? Souvent, on demande des choses à Jésus, ou à Dieu le Père, au nom de Jésus, parce qu'on a besoin, on a des détresses, des difficultés, on a des désirs, des souhaits, et puis on est tellement, parfois, coincé par des choses, on a tellement besoin, de tellement de choses à demander. On a le droit de le faire, c'est tout à fait légitime, nous sommes ses enfants. Mais il y a quand même quelque chose d'important. Avez-vous l'expérience que Jésus vous conduit là où vous ne voulez pas? C'est-à-dire qu'il va mettre dans votre vie des orientations, des événements que vous n'avez jamais choisis, que vous ne choisirez pas encore plus tard. la grande sécurité, bien tranquille, le canapé en velours avec Jésus. Avec Jésus, on a l'assurance de l'amour. Mais la fausse sécurité du velours, du chrétien bourgeois dans l'âme, face à Jésus, ça n'existe pas. Nous allons lire Jean, chapitre 21, verset 18. La plus grande imposture que nous pouvons avoir dans la vie spirituelle, c'est de vouloir avoir une relation bourgeoise, possessive avec Jésus. Égocentrique, narcissique. Pouet, pouet. C'est la folle, c'est les vierges folles qui n'ont pas d'huile dans leur lampe et pas de lumière. Quand Jésus revient, je ne vous ai pas connu. Et donc, nous allons voir au chapitre 21 de Jean, verset 18. en vérité, je te le dis. Jésus dit ça à Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Donc il s'habillait, il mettait sa ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, en grec c'est expérimenté, instruit. Donc c'est une vraie vie chrétienne qui l'a transformé. C'est ça que ça veut dire. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Et te mènera où tu ne voudras pas. Quel est cet autre qui va conduire Pierre? C'est Christ, hein? Évidemment. Mais vous savez qu'on a bien du mal à accepter que Jésus nous conduise là où on ne veut pas. Ah oui, et pourtant ça fait partie du lot du chrétien. Ça fait partie de notre vie chrétienne. Jacques, chapitre 4, verset 15. Jacques, chapitre 4, verset 15. Vous devriez... je vais commencer au verset 13, excusez-moi. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui vous arrivera demain... Car qu'est-ce que c'est que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Le frère de Jésus qui enseigne ça à la première église. Alors là, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela, si Dieu le veut. Amos disait déjà cela. D'autres prophètes dans l'Ancien Testament l'ont dit. Alors, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Donc, on peut, malgré soi, sans s'en rendre compte, être dans l'orgueil. Et faire des programmes, faire des pensées et tout ça, produire en nous des projets et que Dieu n'a pas voulu. Vous tracassez pas, moi j'ai été un champion dans ce domaine-là. J'étais un champion. Je peux vous dire que ça ne sert à rien. Il vaut mieux lire ce texte et en être convaincu. Alors, allons voir dans Philippiens, chapitre 2, verset 13. Philippiens, chapitre 2, verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça, ce verset-là m'a choqué très très longtemps, les amis. Et vous savez qu'en France, l'esprit républicain, c'est la liberté. On y tient la liberté. Mais malgré tout, nous ici dans la région, on a quand même l'esprit républicain. Et on a tout de même cet esprit-là du moi-je, qui vient du péché d'Adam et Ève. Et pourtant, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, c'est fini ça. C'est un peu comme dans le mariage. Monsieur et madame faisaient ce qu'ils voulaient quand ils étaient célibataires, mais quand ils se marient, c'est fini. Il faut vivre ensemble, l'un pour l'autre, et choisir des choses pour les deux, en accord si possible. Eh bien, ici, dans la vie avec Christ, c'est Dieu qui fournit en nous un nouveau vouloir, un nouveau faire, selon son bon plaisir. C'est extrêmement important. Paul dit dans Romains chapitre 8 que celui qui est conduit par l'Esprit Saint est fils de Dieu. Si on n'est pas conduit par l'Esprit Saint, on n'est pas enfant de Dieu. Donc il faut peser les mots, il faut peser ces versets, ils sont extrêmement importants. Et cette question est très importante, question 5, avez-vous l'expérience que Christ vous conduit là où vous ne voulez pas? Moi j'ai l'impression que plus on avance dans la vie chrétienne, il nous conduit 90 fois en des endroits où on ne veut pas et 10 fois là où on a bien voulu. J'ai été d'accord. Parfois, à certains moments, c'est la lune de miel, 50-50, 50-50. Ça arrive. Mais n'exagérons pas. Quand on a le sentiment d'autosatisfaction, que Dieu a fait tout ce qu'on en demandait et voulait, il n'y a qu'un problème. Je ne pense pas que Dieu est à notre portée. Dieu reste Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 20. Dans Hébreux chapitre 13, verset 20, nous sommes aux années, dans l'année 90, quand ce texte est prêché et écrit. Qu'est-ce que Apollos dit? Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, donc Jésus-Christ, en le ressuscitant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez vu ce programme au verset 21, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est renversant, ça défie nos capacités mentales. C'est pour ça que je vous disais que nous devenons la propriété de Christ. À la question 2, avez-vous été donné par le Père à Jésus? Et il est extrêmement important d'être convaincu de tout cela. Parce que c'est la vraie vie chrétienne. Il n'y a pas de vrai christianisme sans ses convictions intimes. Elles sont des convictions de base. Ce sont des axes de la vie chrétienne. Et tout cela résulte de la résurrection. Jésus n'est pas ressuscité après le tombeau pour qu'on fasse la fête et simplement qu'on soit des chrétiens à la manière de « Oh ben maintenant on va faire un peu tout ce qu'on veut, on aime Jésus, on est sauvé, il est mort pour nous, pour nos péchés. » Nous appartenons à Christ, nous sommes son peuple. C'est lui la tête de l'Église, c'est lui qui dirige, c'est lui le grand berger. Les brebis connaissent sa voix, elles le suivent. Ça change la perspective. D'une folle idée de l'Église, mai 68. La sixième question est ceci. Êtes-vous une brebis de Jésus-Christ? Première épître de Pierre, chapitre 2. Êtes-vous une brebis de Christ? Première épître, chapitre 2. De Pierre, chapitre 2, verset 25. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Une brebis errante. Alors, j'ai pensé à quelque chose de phénoménal. J'ai fait un dessin, je ne vais pas vous le remettre là, mais imaginez une clôture avec des piquets, 50 mètres sur 50 mètres, et vous mettez des brebis. Elles sont habituées à manger dans les clôtures, elles sont là. Il n'y a pas besoin de pasteur, de berger. Et puis, à la longue, à force de passer la tête sous le fil d'en dessous, le fil se relâche, un crampon lâche, un clou lâche, et puis La brebis passe, puis une deuxième, une troisième, et tout, on retrouve toutes les brebis dans les prairies, dans les autres prairies, et ou sur la route. Ces brebis ont été apprises à être gardées par des règles, par des lois. Mais pas par un berger. Elles ne connaissent pas la voix d'un berger, elles ne connaissent pas la personne du berger. Ce sont des personnes qui ont été habituées à des règles, à des principes. Et il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens qui aiment mieux les principes que le berger. Il y a des chrétiens qui aiment mieux les règles que la grâce du berger. Et puis, il y a les brebis qui n'ont pas de clôture, pas de piquet, et qui sont conduites par un berger, avec son bâton, sa houlette, qui vont dans les montagnes, qui changent, qui font la transhumance, et qui passent d'une région à l'autre, et qui suivent le berger. Elles sont attachées au berger. Elles ne font pas la folle, ce n'est pas des brebis folles, qui partent dans tous les sens. Elles sont vraiment attachées à la présence du berger, à sa voix. Ça réclame de leur part une connaissance, une identité du berger, une identité de sa voix. Et ça, il y a un calme, une sécurité dans ces brebis. Et il y a un mouvement dynamique. Dès que le berger parle, démarre, elle démarre. Il y a un mouvement dynamique. Dynamos, force, tout ensemble dans la même direction. Tandis que dans les autres, qui ne connaissent pas de berger, qui sont habitués avec des lois, des règles, quand les règles tombent, badaboum, on va dans tous les sens. Et c'est pour ça que la chrétienté du 19e, 20e siècle, en Europe, a dégringolé, s'est désagrégé. Parce que le berger n'avait pas été connu par les brebis. On avait des règles, on avait des pasteurs, on avait des curés, on avait des beaux bâtiments, on avait tout pour croire qu'on était en sécurité. Quand il y a eu des trous dans les barrières, quand il y a eu une absence de fil aux clôtures, les brebis sont parties dans tous les sens. Il n'y a plus de brebis dans la pâture. Les églises sont vides. Et je pense que ceux, les brebis qui sont habitués à la voix du berger, à sa parole, à son évangile, et à se donner à lui, seront toujours avec Jésus. Et seront toujours prêtes à servir Jésus et à porter du fruit dans le monde. Donc, le pâturage d'une vraie brebis, c'est sa connaissance de son berger, c'est son amour du berger, c'est la connaissance de sa voix, et c'est d'accepter le regard du berger, c'est d'accepter l'autorité du berger. C'est l'expérimentation du risque, il n'y a pas de clôture. Des loups peuvent arriver, des imprévus peuvent arriver, mais le berger est là. C'est moins sécurisant qu'une institution avec des beaux bâtiments, des bonnes trésoreries et des grands groupes bien organisés. Mais avec Jésus, il y a une autre sécurité dans l'âme. Et quand les bâtiments, les bonnes organisations tombent, elles sont toujours derrière le berger. Donc méfions-nous de grégarisme. Méfions-nous des fausses illusions. L'Église sera toujours un troupeau de brebis derrière Jésus et n'est pas à confondre avec les institutions qu'on a connues pendant des siècles. Les piquets ont été détruits, les fils barbelés se sont rouillés, sont tombés à terre et c'est la pagaille. Maintenant, il faut réapprendre à ceux que Dieu appelle à entendre la voix. Il faut réapprendre l'amour du berger. Il faut réapprendre toutes les questions que je vous ai posées. Les questions que je vous ai posées sont phénoménalement importantes. Avez-vous été choisi par Jésus? Question 1. 2. Avez-vous été donné par le Père Jésus? 3. Avez-vous aimé Jésus? 4. Avez-vous l'assurance que Jésus, qui est devenu votre ami, votre berger, est pleinement convaincu que vous l'aimez? Interrelation, réciprocité, communion. 5. Avez-vous l'expérience que Jésus vous conduit là où vous ne voulez pas? Eh bien oui, évidemment, la vraie brebis c'est ça. Et la sixième question, êtes-vous une brebis de Christ? Ben, finalement, quand on a répondu aux cinq premières questions, il y a des grandes chances qu'on peut dire oui. J'ai d'autres questions, évidemment. Question 7. Mettez-vous votre confiance dans la chair, dans l'humain? Avec tout ce que je viens de dire, on pourrait dire non. Mais, attention. Philippiens, chapitre 3, verset 3. Puisque les apôtres ont trouvé important de le dire dans les épîtres, alors que les églises existaient, qu'on était à première époque, ils étaient entourés, enseignés par les apôtres. Première génération. Et ils doivent parler comme ça, alors pour nous. Il est donc bon de lire ces versets-là. Mettons-nous notre confiance dans notre chair, dans notre humanité. Il faut se poser la question, même si on a des belles convictions. Philippiens, chapitre 3, verset 3. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit Saint, pas par la chair, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair, donc en l'humain. Nous ne mettons point notre confiance en l'humain. Les amis, il est extrêmement important de se rendre compte que l'humain et le divin, il y a un abîme entre les deux. Et qu'il ne faut pas faire de compromis. La vie chrétienne n'est pas une amélioration de l'humain. Quand j'étais jeune, je cherchais beaucoup, je cherchais. J'avais pas de pasteur, pas d'église évangélique. Et j'étais tombé sur un livre d'Henri Bergson, un philosophe français. J'adorais ce livre. Un supplément d'âme. Oh, j'ai adoré ce livre. Et je pensais que oui, avec tout mon amour pour Jésus, un supplément d'âme. Mais avec Jésus, ce n'est pas un supplément d'âme. Je regarde Paul dans Galates, au chapitre 2, et il est mis ceci. J'ai été crucifié en Christ, et c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un supplément d'âme, ça. Mon âme a été crucifiée à la croix, en Jésus, et ensuite c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez comment on peut, si on laisse parler des beaux penseurs et des beaux livres, se faire induire en erreur, sans s'en rendre compte. Eh bien, moi, je suis passé par toutes sortes de lectures comme ça. Après coup, il a fallu toujours que je fasse la critique, jusqu'au jour où je suis tombé, Dieu merci, hein, que des évangéliques sont venus à notre porte. Alors, Philippiens 4, verset 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous avez vu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, évidemment, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc quand, dans Deutéronome 6, 5, il est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, tes forces, c'est par qui? Jésus-Christ. Sinon, cette règle de Deutéronome 6, 5, impossible à accomplir. C'est par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Donc ça justifie toutes les questions que je vous ai posées, qui sont des questions de base. Mettez-vous votre confiance en votre chair? Non, c'est en Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 5, verset 6. Il va falloir finir, oui. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6. Verset 6 à 11. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Je vous dis qu'on est à l'époque apostolique. Ce sont les apôtres qui ont fondé ces églises. Ils sont en face des apôtres, des témoins directs de Jésus-Christ, de sa résurrection. Et regardez déjà le dégât. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc l'orgueil, c'est comme ça. Boum, boum, boum. Lentement, lentement, ça déforme tout. Faites disparaître le vieux levain, donc l'orgueil, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. car Christ notre Pâque a été immolé. Donc à la Pâque, Jésus-Christ est mort, a été immolé, c'est-à-dire notre péché était crucifié. Il ne devrait plus y avoir l'œuvre du péché dans l'Église de Christ. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, donc avec le péché. Hein? Célébrons donc la fête chrétienne dans l'Église, non pas avec le péché, mais avec un levain, non pas avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Donc, vous pouvez vous représenter, chers frères, et moi aussi ça m'a beaucoup touché, que dans les premières églises, il y avait déjà malice et méchanceté tout en adorant Dieu et en priant, en louant Jésus-Christ. Et que les apôtres devaient mettre le doigt dessus pour que ça cesse. Ils ne pouvaient pas tolérer le mensonge spirituel. C'est extrêmement important, les amis, de discerner le vrai du faux et de ne jamais se laisser séduire par nous-mêmes, par notre chair. Notre nature adamique est malhonnête envers Dieu. Et si nous lui laissons une petite place, elle veut reprendre toute la place. Donc, mettez-vous votre confiance dans votre chair, je pense que c'est non, chers frères. Dans Romains 8, 5, 14, je finis ce point de la question 7. Romains 8, 7, 8, 5 à 14. Ceux en effet qui vivent selon la chair, donc l'humain, s'affectionnent aux choses de l'humain, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de l'humain, c'est la mort, séparation d'avec Dieu. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair, de l'humain, est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Donc, nous voyons bien qu'il y a clairement en nous une incapacité d'aimer Dieu et de faire sa volonté si nous écoutons notre vanité, notre péché, notre nature humaine. Nous devons marcher par la grâce. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens, Christ dit à Paul, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que je me glorifierai. » Donc Paul a été conduit dans la faiblesse, dans les épreuves, là où il ne voulait pas, pour que son orgueil ne se développe pas, mais qu'il soit brisé. Bien qu'il ait cru, bien qu'il ait donné toute sa vie à Jésus, bien qu'il le serve au risque de sa vie, mille et une fois, son orgueil revient toujours. C'est pour dire que l'ennemi n'est jamais chez les autres. L'ennemi est spirituel, c'est le péché. C'est de lui dont nous devons nous méfier. Alors, nous ne pouvons pas mettre notre confiance dans l'œuvre du péché qui est en nous. Nous devons demander à Christ de continuer notre purification. Et ce serait un tort de penser que, puisque j'ai l'assurance du salut, je suis devenu chrétien, je suis sauvé, je n'ai plus besoin d'être purifié. Je dois être continuellement purifié sous le sang de Jésus, sous la volonté de Jésus, sous l'autorité souveraine et de Christ vivant. C'est ça la vie chrétienne. Nous aborderons la fois prochaine d'autres questions. J'en ai fait 7. J'en ai encore 8. Et puis, ça sera pour vendredi. Et puis, après dimanche, nous aborderons un autre sujet, évidemment. Et je vous en laisse la surprise. Que Dieu vous bénisse, vous accorde sa paix, sa joie.